Égocentrique, c'est centré sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur nos besoins, sur ce que nous voulons, sur ce que nous désirons, sur ce que nous réclamons, etc. Et on peut même être piégé dans le domaine spirituel, dans l'adoration, dans la louange, dans la musique, dans la prédication, dans n'importe quel service, on peut être centré sur nous-mêmes. Mais ce matin, à travers ces moments, le Seigneur nous apporte, nous appelle, nous rappelle à être centré sur lui, centré sur Christ, et ainsi bien de continuer à le servir d'un cœur reconnaissant. Dans le texte qu'on va lire ce matin dans Romains 13, il est question aussi de cette expression de revêtir Christ. Centré sur Christ, c'est de revêtir Christ. Et on va relire ce texte dans Romains 13 avec cette pensée ce matin. Mais vous savez, ou plutôt nous savons, quel temps nous vivons. Nous savons quel temps nous vivons. C'est ce que Paul va écrire aux Romains, mais il me semble qu'il y a comme un écho également ce matin, depuis bien certainement plusieurs années, mais les choses s'approchant, nous le savons, c'est comme un écho, et le peuple de Dieu est averti, nous savons dans quel temps, nous savons quel temps nous vivons. Le contexte, Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Jésus va la résumer. Les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et puis ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et puis, dans ce contexte, Paul ajoute, cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivronnerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Soyez centrés sur Christ et non plus égocentriques. C'est ce que Paul résume dans ce texte. En tout cas, il écrit à ces Romains, ces chrétiens de Rome. On estime cet écrit aux environs de 57 après Jésus-Christ. Et Paul, écrit, inspiré par le Saint-Esprit, que cette église, que ses frères et sœurs, en tout cas de Rome, sont en train de vivre des moments particuliers, des moments troublés, des moments qui ne sont plus aussi clairs, aussi limpides, peut-être qu'au début de l'expansion du christianisme. Il y a à cette époque un certain empereur que nous connaissons par l'histoire, c'est Néron. Et en 57, lui-même commence à évincer les Juifs, puisque c'est une communauté importante sur Rome, et puis aussi les chrétiens de Rome. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, le rappelle que des moments de ténèbres, que des moments difficiles sont à venir. Et ils vont venir. Ils vont venir parce que vous le savez qu'en 64, il va y avoir cet incendie de Rome, terrible. Et Néron va l'attribuer aux chrétiens qu'il va persécuter, qu'il va massacrer. Et ces moments vont être terribles, bien sûr, pour les premiers chrétiens. Je crois que 2000 ans après, cette parole de Paul traverse encore l'histoire et puis nous parle un écho dans nos cœurs. Nous savons quel temps nous vivons. Nous savons quel temps nous vivons. Paul dira à Timothée, 2 Timothée 3, 1, 5, vous connaissez, dans les derniers jours. Vous lirez ce texte, il y aura des enfants rebelles, il y aura de l'ignominie, il y aura de la rébellion, etc. Jean va jusqu'à dire ceci, 1 Jean 2, 18, lui parle de la dernière heure concernant les antichrists. Et je crois que ce matin, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons dire aussi, nous savons quel temps nous vivons. La première pensée, c'est une réalité prophétique qui est indéniable, qui est incontestable. La Bible, inspirée de Dieu, nous rappelle que du début à la fin, Dieu déroule son plan, Dieu déroule son histoire à lui avec un grand H. Et les hommes entrent dans son histoire. Quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils pensent être parfois bien comme des dictateurs pour un pays ou faire la pluie et le beau temps, c'est Dieu qui a l'histoire en main avec un grand H. Et depuis la désobéissance d'Adam et Ève, le péché qui est entré dans ce monde, bien le but de Dieu, c'est de sauver, c'est de consoler, c'est de restaurer, c'est que chacun puisse trouver en Christ son Seigneur et son Sauveur. Mais dans les mêmes temps, bien la Bible nous dit aussi que Dieu va exercer ses jugements envers toutes celles et ceux qui n'auront pas suivi Christ comme leur Sauveur. Et Dieu donne des points de repère dans l'histoire. Il y en a au moins trois. Ce sont des signes que Dieu a établis. Ce sont les nations, ce qui se passe dans les nations, et Dieu juge les nations. La Bible nous dit qu'il élève un homme, qu'il en abaisse un autre. Et Dieu, par les nations, nous montre, eh bien, que son plan se déroule. Deuxième signe, c'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ, hein, née à la Pentecôte. Et puis le troisième signe, c'est Israël. Hein, c'est Israël. Là aussi, eh bien, on sait que tout est parti de Jérusalem, tout reviendra à Jérusalem. C'est aussi, bien sûr, dans cette réalité. Nous savons que nous vivons des temps qui sont prophétiques. Le point prophétique qui s'est accompli, eh bien, certains étaient nés, je pense, le 14 mai 1948. Connaissez cette date, bien sûr. C'est ce moment où David Ben-Gourion, bien, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. 14 mai 1948. C'est la prophétie d'Ésaïe 66, verset 8. Hein, je vous la cite, mais Dieu comme interpelle à travers le prophète les nations, et puis il dit ceci, mais une nation pourrait-elle naître en une journée ? Une nation pourrait-elle naître en une journée ? Et à partir de mai 1948, nous sommes entrés dans les temps de la fin. Parce que c'est une prophétie, rendez-vous compte, Ésaïe la prophétise 2700 ans avant, environ. 2700 ans. C'est une prophétie qui est particulière, qui est unique. D'abord, elle a une précision puisque il est dit clairement, une nation peut-elle naître en une journée? Eh bien oui. En une journée, en un jour, le 14 mai 1948, alors que depuis l'exil à Babylone, le peuple juif est errant ou toujours dominé par des nations, par des tyrans, bien, depuis ce temps, ce peuple errant, en une journée, eh bien, va retrouver officiellement l'État d'Israël. En faisant quelques recherches, je me suis aperçu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, d'un certain Theodor Herzl. Hein, c'est un Autrichien de souche, et puis il a tenu son premier congrès tout près d'ici, à quelques centaines de mètres, à Bâle. Ça se passe en 1897, et à Bâle, il proclame lors du premier congrès sioniste, il dit ceci, « J'ai créé l'État juif. » J'ai créé l'État juif. 1897. Alors pour compléter, il faudrait parler bien sûr d'Ézéchiel 37, hein, la prophétie de ses ossements, c'est Israël, c'est clair, c'est défini, et pour l'instant, bien cette naissance de l'État d'Israël n'est pas encore complète, puisqu'il y a les eaux, il y a les nerfs, la société, la structure, l'État est là, mais il manque encore l'esprit, il manque la vie. Et Dieu donnera ce souffle, hein, l'esprit de supplication et de grâce, lorsqu'il reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, hein, c'est Zacharie 12 et 13 qui en parlent, mais depuis le 14 mai 1948, nous savons dans quel temps nous vivons. Nous savons dans quel temps nous vivons, puisque bien cette prophétie très claire a été accomplie. Alors on pourrait parler d'autre chose, mais je passe peut-être rapidement, mais d'une manière technologique, on en parlait dernièrement avec quelques frères et sœurs également, de ces réalités maintenant sur la mise en place d'un système de contrôle total mondial. C'est en place, c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Vous savez que la Suède est un pays particulièrement avancé, hein, dans l'implantation de la puce électronique. Et de plus en plus, eh bien, les Suédois peuvent accéder, donc, en se laissant simplement implanter une puce, eh bien, à toutes sortes d'accès, de paiements, etc., etc. Et c'est fait, le contrôle électronique. Et puis, il y a cette fameuse intelligence artificielle, alors qui est fascinante d'un côté et effrayante pour de l'autre. Les cinéastes américains, là, ont établi un contrat avec leurs acteurs. Je crois qu'ils ont eu, je sais plus, 140 jours de grève. Pourquoi ? Parce que ces acteurs, eh bien, ont peur. Désormais, vous pouvez prendre un acteur, le filmer pendant, je sais pas moi, 2 minutes, 3 minutes, et puis après en faire ce que vous voulez, comme si c'était lui. Et pour vous dire, la pertinence, c'est que désormais, on peut prendre votre voix, votre visage, vos mouvements, et puis en quelques instants, eh bien, vous faire dire, vous faire bouger, comme si c'était vous. À un tel point que, pour l'instant, les cinéastes, ou en tout cas, en Amérique, on leur a imposé que pour tout ce qui venait de l'intelligence artificielle concernant les films, il fallait mettre dans ces films faits artificiellement des marqueurs pour bien montrer que c'était faux, que c'était pas le vrai acteur, c'était pas sa vraie voix, c'était pas son vrai visage, parce que tout semble être comme du vrai. Et j'ai fait le parallèle avec Apocalypse 13, vous savez, quand il est question d'animer l'image de la bête. Un exemple. Mais en tout cas, technologiquement, nous savons dans quel temps nous vivons. Et puis juste comme ça, hein, vous savez que depuis 2020, il y a eu les accords d'Abraham qui ont été passés entre l'État d'Israël sous la présidence Trump avec quatre traités de paix, les Émirats arabes, le Bahreïn, Soudan et Maroc. Et le 22 septembre, je vous invite à le consulter, Monsieur Netanyahou a fait ce beau discours à l'ONU concernant une alliance qui était en train de se faire avec l'Arabie Saoudite. C'est en train de se faire. Et quand on relit Daniel 9, toutes ces alliances qui sont en train de se faire, eh bien, nous savons dans quel temps nous vivons. Nous savons dans quel temps nous vivons. Alors, ça c'est la parole prophétique, mais il y a aussi la parole de la vigilance pour nous croyants. Et j'aimerais lire 2 Pierre 3:11 et puis 1 Thessaloniciens 5:4-8 ce matin pour que eh bien nous puissions nous aussi nous positionner, que nous puissions simplement ne pas être des spectateurs de la parole prophétique qui s'accomplit, mais que nous puissions aussi eh bien nous rappeler ce que le Seigneur nous enseigne. Alors dans 2 Pierre 3:11, il est dit ceci: puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et puis 1 Thessaloniciens 5:4-8 nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 5:4-8 nous dit ceci. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres. Veillons, soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes de jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi, de l'amour. Ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on pourrait ce matin multiplier les textes des exhortations nous appelant à nous rapprocher davantage du Seigneur, à le laisser au centre, qu'il devienne le centre un peu plus de nos vies, de nos sentiments, de nos expressions, de nos pensées, un peu plus chaque jour. Les textes sont multiples et il y a cette réalité parce que Jésus est en train de préparer son épouse à sa future rencontre. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous conclurons avec cela, mais c'est une réalité. Plus les temps avancent dans les ténèbres, dans ce que la Bible nous rappelle, plus, j'allais dire, la préparation du Seigneur est intense. Jésus est en train de préparer son épouse. Et son épouse, eh bien, c'est tous les croyants. Nous faisons partie ce matin de cette épouse et nous voulons réellement considérer cette préparation avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup de joie. Hein, Éphésiens 5, verset 25 nous dit ceci, il est dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Est-ce que ce matin, dans la foi, peut-être pas simplement ce matin, mais dans cette semaine, nous pouvons grandir dans la foi, et puis contempler déjà dans la foi, dans la petite mesure que Dieu nous donne, mais cette église qui est en train d'être préparée d'une manière sainte, elle sera irréprochable, sans tache, ni ride. C'est extraordinaire ça, hein? Pour nous, mesdames ou messieurs, qui combattons nos rides avec toutes sortes de produits, et je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, c'est pas le souci n'est pas là, mais on peut pas lutter hein, contre le vieillissement. C'est là aussi c'est programmé entre guillemets, mais cette Église radieuse, glorieuse dont nous faisons partie, et j'aime bien l'expression qui doit pas nous effrayer ce matin, Christ nous conduit dans la sainteté. Christ nous conduit dans la sainteté. Quelle réalité glorieuse! Il le fait étape après étape. La Bible nous dit que nous sommes transformés à son image, mais de gloire en gloire, étape après étape, par l'Esprit du Seigneur. La sanctification, c'est un chemin, c'est un processus, non pas pour devenir saint, mais parce que nous le sommes déjà. Et je crois qu'il faut bien comprendre ça ce matin. Autrement, on va se torturer, on va se culpabiliser. Personne d'entre nous ne peut arriver à la sainteté parce que nous le sommes déjà. Se sanctifier, c'est réaliser que notre mise à part, nous sommes saints, nous avons été mis à part. Et c'est réalisé ce matin que, mis à part, eh bien, par Jésus-Christ, nous sommes désormais sur le chemin de la vie éternelle. Et désormais, parce que j'en suis conscient, parce que je le réalise, parce que je suis mis à part, parce que je suis un privilégié, un enfant de Dieu, alors, dans cette conscience que mon pardon est immense, que la grâce de Dieu est immense, eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais pas me souiller. Je vais tout faire, justement, pour garder ce chemin de la sainteté et laisser le Seigneur me transformer. Frères et sœurs, le chemin de la sainteté ne me conduit pas dans la sainteté. J'y suis déjà. Par contre, sur ce chemin, eh bien, effectivement, étape après étape, eh bien, mon caractère va changer, mes pensées vont se concentrer sur Christ, mon langage, mes valeurs vont être de plus en plus centrées sur Christ. Peut-être qu'au départ de notre conversion, effectivement, le cercle est très large. On n'est que des bébés spirituels, bien entendu. Hein, le cercle est très large, et puis alors, il y a beaucoup de vagues, ça remue. Mais plus je marche sur ce chemin de la sanctification parce que je suis saint, parce que je suis déjà mis à part, eh bien le cercle concentrique va se recentrer de plus en plus, de mieux en mieux sur la personne de Jésus. Et ce matin, nous n'avons pas le droit de nous comparer les uns aux autres. On peut pas. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas le même vécu. S'il y en a un qui doit se comparer, c'est nous par rapport à nous-mêmes, c'est tout. Mais nous sommes incomparables dans ce sens et nous n'avons pas le droit. Il ne faut pas juger notre frère, notre sœur, en disant « Oh, mais toi, ton cercle concentrique, il est tellement large, hein, et regarde le mien, je suis beaucoup… » Non, nous ne pouvons pas. La sanctification, c'est un processus. Et bénissons le Seigneur ce matin que nous sommes entrés sur ce chemin. Et parce qu'on le réalise, parce que nous aimons Jésus, alors effectivement, bien, nous allons marcher en nouveauté de vie sur ce chemin. Travaillez à votre salut. Vous connaissez ce texte, hein, c'est pas pour l'obtenir. On est bien d'accord, hein, mais c'est pour en développer le fruit. C'est pour en développer justement ce que Dieu nous a donné. Travailler dans ce sens du jardinier qui entretient son jardin. Dieu nous a donné ce jardin extraordinaire. Alors nous l'entretenons. Hein, et c'est pas Yvonne qui va me contredire. Et c'est ce que c'est d'entretenir un jardin. C'est un petit peu de travail quand même. Hein. Mon père aimait faire le jardin, mais alors quand il partait en vacances, quand on partait en vacances. Je me souviens qu'au départ, les pieds de tomates, on les distinguait bien, etc. Hein, 3 semaines après, on savait plus où étaient les pieds de tomates. Alors, bon, il y en avait encore quelques-unes, hein, mais ce matin, j'aimerais nous rappeler ce principe, cette réalité. Eh bien, nous sommes sur ce chemin et nous voulons prendre conscience, eh bien, que Christ nous prépare. Il prépare nos cœurs. Et puis on termine avec une dernière pensée. La parole nous révèle une assurance glorieuse. Oui, nous savons dans quel temps nous vivons. Oui, nous savons que ces temps vont être difficiles. Oui, nous savons que la préparation du système de l'Antichrist est en place. Mais Jésus a dit quand même, quand vous entendrez parler de ces choses, quand vous verrez ces choses arriver, il a dit quoi? Relevez la tête. À relever la tête. Hein, relever la tête, ça veut dire regarder un peu plus haut. Et alors, il y a une image, bien sûr, qui est spirituelle, qui est physique. Mais 1 Thessaloniciens 4:13, et j'aimerais terminer sur cette réalité également avec vous ce matin, 1 Thessaloniciens 4:13, Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous allons nous encourager les uns les autres par ces paroles, une assurance glorieuse, une parole de vie, une parole d'espérance, une parole de foi pour nous ce matin. Le Seigneur revient bientôt nous chercher. Et il y a un terme ici qui est particulier, hein, c'est l'enlèvement. L'enlèvement. Et le texte original, le mot original est très intéressant concernant cette notion d'enlèvement, cette notion d'enlèvement. Corinne me raconte souvent cette anecdote, c'est que quand elle était jeune convertie sur l'église de Nîmes, elle avait donc un groupe d'école du dimanche, et puis elle avait remarqué qu'un de ses enfants se mettait toujours derrière une grand-mère au culte. Il fallait absolument qu'elle soit derrière cette grand-mère. Alors, quelques mois ont passé, puis un jour, donc mon épouse a demandé à cet enfant, mais pourquoi tu te mets derrière cette grand-mère? Alors, elle a répondu, bien parce que je suis sûr que cette grand-mère va être enlevée. Ah, c'est bien, d'accord, très bien. Et la suite était étonnante, c'est que elle ne savait pas trop si elle allait être enlevée ou pas. Et elle se disait, le jour où elle allait être enlevée, je vais m'accrocher à la jupe et je monterai avec elle dans le ciel. Voilà. Bon, ça, c'est gentil, hein. On parlait un jour de l'enlèvement, c'est avec mon fils. Et puis il avait quelques, 4-5 ans. Et puis il me regarde. Alors on parle de l'enlèvement, la manière. Et il me dit, papa, toi, tu t'es trop gros pour être enlevé. Tu arriveras jamais. Je dis, écoute, c'est pas le poids nominal, c'est le poids du péché qui empêchera. Voilà. Mais ce sont des questions très intéressantes, hein, de la part. C'est quoi là, l'enlèvement? L'enlèvement. Alors, l'enlèvement, c'est d'abord dans l'original une notion d'une rencontre avec une personne royale. Ça veut dire ça. Nous allons rencontrer une personne royale. Et là, bien sûr, dans ce texte, eh bien, il est question de du roi des rois, hein, du seigneur des seigneurs. Ce n'est pas le bébé que les mages et puis les bergers avant ont rencontré, non. Hein, c'est une personne royale. La Bible nous parle de Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui va régner dans toute sa gloire. Jean a eu des descriptions du roi des rois, et le regard est insoutenable lorsque Jean le voit. Il tombe en défaillance. C'est Christ, le roi des rois. C'est le roi qui vient nous chercher. Il n'envoie même pas des archanges. On aurait été satisfait et complètement heureux qu'on soit accueilli par les archanges, imaginez, avec les trompettes, etc. Non, c'est Jésus qui se déplace. Le roi des rois qui se déplace en personne pour venir nous chercher. C'est ça, l'enlèvement. Amen. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui est pour nous une source d'espérance extraordinaire. Enlevé. Acte 8, 39, enlever, c'est être spontanément emporté. Il y a une idée de tout à coup. C'est instantané. C'est soudain. C'est imprévisible. Hein, et d'ailleurs, 1 Corinthiens 15 nous dit que nous serons aussi transformés en un clin d'œil, en un battement de cils. Le même texte, le même verbe est ici, dans Acte 8, 39. Vous connaissez là aussi, hein, ce miracle avec... ce que va vivre Philippe, il dit ceci, acte 8, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, enleva, c'est le même terme, enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, ça a été instantanément, imaginez, ils étaient en train de discuter, et hop, instantanément, et on anticipe, nous, hein, à tous ceux auxquels on a témoigné, etc., le jour où l'Église va être enlevée, on va être enlevé, waouh. Ça va être quand même un sacré choc sur la terre, hein. Il va y avoir toutes sortes, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, du jour au lendemain, tiens, il n'est pas venu au travail aujourd'hui, tiens, elle n'est pas venue à son rendez-vous, etc. Ça va être un choc, parce que ça va être instantané, ça va être spontané. Enlevé, 2 Corinthiens 12, 25, Ça veut dire aussi être emporté dans un autre lieu. On a le même verbe ici qui est utilisé, 2 Corinthiens 12:25, c'est l'expérience de Paul, et il dit ceci, 2 Corinthiens 12:25, alors c'est peut-être 1 Corinthiens 12:25, non, alors c'est ce moment où Paul est ravi donc au ciel, alors c'est peut-être après, mais en tout cas c'est ce moment, 12:25. 12:25, non, c'est pas ça, il n'y a même pas un. Alors, c'est où qui parle Paul de son corps c'est 12:1-5. Faut-il se vanter? Cela n'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Enlevé, donc, c'est être emporté dans un autre lieu. Et Jésus nous fait une promesse, ce matin il nous rappelle, Jean 14, « Je vais vous préparer une place. » Et quand cette place, et là encore c'est Jésus qui prépare cette place, « Et quand cette place sera préparée, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il nous avait une promesse, et quand on lit l'Apocalypse, qui ne devrait pas nous effrayer, mais au contraire, nous réjouir, nous encourager, quand on lit la Jérusalem céleste, quand on lit les noces de l'agneau, quand on lit tout cela, eh bien, quelle promesse ! Rien à voir avec les 7 merveilles du monde. Je ne sais pas si vous connaissez les 7 merveilles du monde, j'étais déçu d'ailleurs, hein. Moi, je m'attendais à... Alors, il y a le Taj Mahal en Inde, ça peut être beau. La Grande Muraille de Chine, c'est pas mal. Il y a Petra en Jordanie, il y a la statue du Christ Rédempteur à Rio, il y a le Machu Picchu au Pérou, il y a un site au Mexique que j'ai pas pu déchiffrer dans le langage là, et puis il y a quand même le Colisée à Rome. Bon, pourquoi pas, hein. Mais la Jérusalem céleste n'a rien à voir avec tout cela, ce que les hommes considèrent comme étant les 7 merveilles du monde. Nous allons être enlevés dans un autre lieu, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, Je veux dire ce matin, bien, que nos cœurs se réjouissent. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Et puis, la dernière pensée, enlever, c'est être délivré d'un grand danger. Dans Actes 23:10, il y a ce moment où Paul va être pris à partie, vous vous en souvenez. Et au verset 10, il est dit ceci. Comme le débat devenait vif, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièces par ses hommes. Il ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Moi, j'ai une belle image ici de ce moment où Christ va venir nous chercher avant cette grande tribulation. On relira un texte dans Apocalypse. Mais pour moi, bien, il y a cette réalité. Dieu ne va pas permettre que ses enfants soient déchirés, soient humiliés, soient mis en pièces. Parce que le règne de l'Antichrist, ça va être, excusez-moi la comparaison, ça va être de la mise en pièces. Ceux qui n'accepteront pas sa marque, eh bien, s'ils la refusent, en paieront de leur vie, nous le savons. Le système va être mondial, va être sécurisé, va être totalitaire et total. Et je ne conçois pas ce matin que Christ, eh bien, attende que son Église soit mise en pièces, que les chrétiens soient mis en pièces, pour qu'ils viennent ensuite venir nous chercher. La Bible nous dit que enlever, eh bien, c'est d'être tiré d'une grande détresse, c'est d'être sorti, d'être délivré d'un grand danger. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et j'aime bien ce texte d'Apocalypse 3:10. Vous le connaissez. Et ce matin, nous voulons nous encourager. Nous savons dans quel temps nous vivons. Mais nous savons également ce qui nous attend. Amen. Ce qui nous attend. Et Apocalypse 3:10 nous dit ceci. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi, littéralement, hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Hein, il est question ici de cette grande tribulation, 2 fois 3 ans et demi, qui va venir instaurée par l'Antichrist. Mais ce matin, bien, il y a pour nous cette réalité glorieuse. Nous savons dans quel temps nous vivons. Christ est à la porte. Il revient bientôt nous chercher. Et dans cette réalité, bien, nous voulons nous encourager les uns des autres. Amen. Alors, tenons-nous prêts, parce que malgré tout ce que nous savons, bien, on sera quand même surpris. Je dirais, il y aura au moins la moitié des chrétiens qui seront surpris sur cette terre. Parce que je pense qu'il y en aura la moitié qui dormiront, et puis les autres qui seront... J'imagine ça comme ça. Peut-être que l'Esprit du Seigneur pourra aussi nous préparer. Je dis ça comme ça. Mais en tout cas, ce matin, bien, Je reviens à ce chant, bien, restons, devenons de plus en plus christocentriques. Christ au centre, Jésus au centre de ma vie, de mes sentiments, de mes émotions, de mon âme, de mon esprit, de mon Christ au centre. Amen.